voudrais bien voir quelles sont les conséquences réelles de la faute première sur la nature, puisque on parle d'un péché de nature. Alors, c'est la nature humaine qui perd sa dignité. Tout était construit pour l'homme dans la sagesse divine. Tout a été construit pour que l'univers physique glorifie l'homme. Dans le livre de la sagesse, il y a des choses très étonnantes là-dessus. Et on voit bien ce point de vue de Dieu de la sagesse. Et le péché a mis comme des obstacles à ça, des limites, qui sont le regard de Dieu sur l'homme est différent. Et au fond, c'est ça. Le gouvernement de Dieu est un gouvernement de sagesse. Ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas dire que ce n'est pas un gouvernement de sagesse. Donc, le premier gouvernement de Dieu est un gouvernement de sagesse. Et avec le fait que c'est un gouvernement qui ne peut pas être regardé uniquement au point de vue création de la nature, mais qui est regardé avant tout communication de la grâce. Donc, dès le point de départ, c'est sûr, il y a les deux choses à considérer, le point de vue de la nature et le point de vue de la personne. La nature, vous voyez, en justice originelle, l'alliance personnelle de la grâce avait son rayonnement parfait sur la nature. De sorte que la nature était sanctifiée et non pas en rébellion contre la grâce, mais sanctifiée et complètement soumise à la grâce. Mais le gouvernement de Dieu a toujours été pour l'homme, ça faut bien le saisir, un gouvernement paternel et un gouvernement personnel dès le point de départ. Le péché a brisé cette unité parfaite de la personne et de la nature en faisant que la nature communiquer à l'âme, donc à la personne, la faute. Ça, selon l'Écriture, je ne peux pas le dire directement, mais selon l'enseignement de l'Église. Vous voyez, c'est quand même très curieux, ça. C'est que le péché est un péché de nature, pas personnel. Parce que la personne est créée directement par Dieu. Donc, en tant qu'elle est créée directement par Dieu, elle est bonne. Et en tant que cette personne, c'est l'âme qui doit être unie au corps, c'est le corps qui transmet la perfection. Le péché originel. Le péché originel est incompréhensible, impossible à essayer de préciser si on ne voit pas la différence entre personne et nature. Parce que c'est là où, justement, on voit ce que c'est que le péché originel. C'est un péché de nature. Et c'est un péché de nature parce que Adam était chef de la nature humaine. Il était le premier de la nature humaine. Donc, si le premier est atteint par le péché, c'est-à-dire le péché, mais ce divorce terrible entre l'alliance avec Dieu et la nature humaine, les exigences de la nature humaine, la nature humaine est blessée et elle n'est plus entièrement ordonnée vers Dieu, chassée du paradis terrestre. Et ce qu'il faut bien remarquer, c'est que chassée du paradis terrestre, Dieu y met et les chéroubines, les chérubins, pour que l'homme ne puisse pas revenir au paradis terrestre. Bon, c'est un langage symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que ça veut dire que notre nature humaine a connu un état de perfection, l'état d'innocence. Et donc, il y aurait toujours cette nostalgie profonde dans la nature humaine. Et quand vous regardez la mémoire du corps, la mémoire du corps, on ne sait pas exactement ce que ça signifie, n'est-ce pas ? C'est à la fois métaphorique et puis en même temps ça veut dire quelque chose de vrai. Alors, la mémoire du corps, notre corps a connu notre corps. Notre corps, point de vue générique, dans sa source, a connu un état de perfection absolue. Et donc, cet état de perfection absolue explique les nostalgies permanentes du corps. Qu'on n'en peut rien. Puisque le corps humain, notre corps humain, en Adam, a connu cet état de perfection. Et je crois que ce serait très important et très intéressant au point de vue théologique de voir que toutes ces nostalgies, donc de la mémoire du corps, toutes ces nostalgies sont des nostalgies de la nature humaine qui veut retrouver son état premier, son état de perfection à l'égard de l'âme. Une béatitude humaine. Vous voyez, c'est très net chez Teilhard Chardin, par exemple. Net chez lui, c'est que l'homme doit retrouver tous sa béatitude première et que la nostalgie profonde de l'homme, c'est retrouver ça, retrouver le paradis terrestre. Oui. Alors, il y a quelque chose de vrai dans cette espèce de mémoire du corps, parce que ça, c'est palpable. C'est la nostalgie, on le voit. Et c'est la nostalgie de l'état premier en lequel l'homme a été. Et je peux dire que ces nostalgies sont réelles, puisque Dieu y met le chérubin à la porte du paradis terrestre pour empêcher l'homme d'y retourner. S'il n'y avait pas ces nostalgies, la place du chérubin serait inutile. place du chérubin exprime symboliquement, mais réellement, puisque le symbole divin, il ne faut jamais l'oublier, implique toujours quelque chose de réel. C'est la différence du symbole humain. Le symbole humain poétique ne désigne pas toujours quelque chose de réel. Mais Dieu, quand il parle, du moins quand il s'exprime symboliquement, veut exprimer quelque chose de réel que nous pouvons détecter, que nous pouvons préciser. Or, ça ne servirait à rien de mettre un chérubin à la porte du paradis terrestre s'il n'y avait pas dans l'homme des nostalgies radicalement radicales, animées et réveillées par le démon. Le démon réveille toujours ça. Tu as été dans le paradis terrestre et ton corps a un droit, parce que pour le démon, Dieu a puni d'une façon trop sévère Adam. Tu as un droit à revenir au paradis terrestre. Et tu dois découvrir dans l'homme cette nostalgie de redécouvrir et revenir au paradis terrestre. Oui, c'est, je crois, très important ça. Parce que ça vous fait comprendre ces choses très actuelles. Le communisme est une nostalgie de retour à l'état premier où on se serait tous aimés sans jalousie. Le positivisme absolu est encore une nostalgie. L'homme veut dominer sur tout. Bon, je crois que tous les grands mouvements contraires à la foi viennent de là, ont un enracinement dans la mémoire. Une mémoire radical, hein, chassé du paradis terrestre. Nous sommes chassés du paradis terrestre. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Posez-vous la question. Nous avons la nature humaine reçue d'Adam. Et qu'est-ce que ça veut dire, chassé du paradis terrestre? Pour notre humanité d'aujourd'hui, parce que ces retours au paradis terrestre sont différents dans les différents siècles. Et je dirais, chaque siècle est marqué par une nostalgie spéciale. Celle du Moyen-Âge n'était pas du tout la même que celle d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait au Moyen-Âge qui est cette nostalgie? Ce serait très intéressant, ça, à voir. Et ça me semble que cette lecture que nous faisons dans la foi du début de l'humanité et du premier péché montre ça. Montre quelque chose de très fondamental en nous. Il y a quelque chose de très fondamental. C'est que dès notre plus tendre jeunesse, on est marqué dans son corps et par son corps du péché originel. Et voudrais retrouver un Éden. Et cet Éden, l'Éden, est impossible. Donc, premier moment, on les regardera à la suite, hein, premier moment de la conduite de Dieu, avec Cain, à partir de cette jalousie religieuse. Comment comprendre les jalousies religieuses? Comment les comprendre dans la vision de Dieu? Et c'est la première conséquence, chassée du paradis terrestre, d'où jalousie religieuse de Cain à l'égard d'Abel. Alors, faut-il être Abel, imiter Abel? Accepter d'avoir le coup tranché, d'être victime et rien dire. C'est la première conséquence. Et Cain, alors, se plaint à Dieu. On verra partout que j'ai tué mon frère et on voudra se venger d'Abel sur moi. Et Dieu dit pas du tout. Dieu met un signe sur Cain, il le protège. C'est extraordinaire de voir ça. C'est la miséricorde du Père. Je crois au premier moment, puisque je suis déjà dans la paternité. Premier moment. La paternité de Dieu s'est manifestée en premier lieu vis-à-vis du fratricide de Cain. Alors je crois que c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. C'est pour montrer que tout péché est pardonnable. Même le crime d'avoir tué Abel. Second moment. Noé. Donc la période entre chassé du paradis terrestre jusqu'à Noé est une période où Dieu protège Cain. La miséricorde du Père s'est manifestée là d'une façon très remarquable, puisque c'est la première miséricorde. Dieu est gardien de la vie de Cain, du fratricide. Chapitre 6. Il avait vu que la malice de l'homme était grande sur la terre. Donc, le péché chassé du paradis terrestre s'est étendu dans toutes ses conséquences et engendré la malice de l'homme. Et que son cœur ne formait que des pensées mauvaises. À longueur de journée. Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'afflugea dans son cœur. Alors aussi, c'est métaphorique, évidemment. Et c'est un symbolisme merveilleux pour voir que Dieu avait créé avec amour, l'homme, avec un tel amour que même le crime de Cain était effacé. C'est fabuleux, ça. Prêcher sur cette première miséricorde de Dieu, parle beaucoup là-dessus. J'ai jamais entendu prêcher là-dessus, moi. Et pourtant, c'est la première miséricorde du Père. Et c'est important. Parce que il n'y a même pas beaucoup parmi nous qui ont tué leurs frères par jalousie. Alors, c'est pas nécessairement le tuer physiquement. Le tuer moralement, le tuer dans sa réputation, c'est plus grave encore. Et Dieu le protège. Et empêche la vengeance, tout simple. Noé aurait pu dire, mon pauvre fils, c'était comme ça, vite. Pas du tout. Il a empêché Adam d'être justifié, de justifier la perte de Abel. Alors, second moment, en face de ces pensées mauvaises, Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'affligea dans son cœur. Yahvé dit, je vais effacer de dessus la surface de l'homme, du sol les hommes que j'ai créés, depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Alors c'est intéressant de voir comment Dieu, parce que ça nous manifeste là, que la vie de tous les reptiles, de tous les oiseaux du ciel, de tous les bestiaux, tout ça n'a de sens que pour l'homme. Si l'homme est supprimé, il faut tout supprimer. C'est un langage négatif, une menace, mais à l'intérieur du cœur de Dieu. Donc ça signifie quelque chose. Ce symbolisme signifie l'unité qui existe entre les hommes et la nature. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Au milieu de ce monde de cauchemar, il y en a un que Dieu aime. Voici l'histoire de Noé. Alors, cette histoire de Noé nous intéresse beaucoup, puisque c'est le seul que Dieu aime de cette première période de l'humanité. Noé était un homme juste, parfait, parmi ceux de sa génération. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cam et Japheth. La terre se pervertit devant Dieu et la terre se remplit de violence. À cause de l'homme et par l'homme, la perversion de l'homme va jusqu'à la terre. La terre se pervertit devant Dieu. Et la terre se pervertit de violence. Dieu regarda la terre, et voici qu'elle était pervertie, car toute chair avait une conduite perverse et saine. Donc, puisque l'homme doit dominer sur le monde, sur l'univers physique, si son cœur se pervertit, nécessairement la terre se pervertit. Et la génération des animaux se pervertit. Et voici qu'elle était pervertie, car toute chair avait une conduite pervertie sur la terre. Dieu dit à Noé, « La fin de toute chose est venue devant moi, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. » Vous voyez, c'est la violence qui domine maintenant. Voici que je vais les détruire, ainsi que la terre. Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu disposeras l'arche en cellule. Alors, donc, le salut vient d'un seul homme. Et la perversion est générale quant à la nature. Un seul homme, aux yeux de Dieu, répare tout. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venu devant moi, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Voici que je vais les détruire, ainsi que la terre. Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu disposeras l'arche en cellule et tu la remplis de bitume. Dieu dicte à l'homme. Et Dieu se fait architecte pour l'homme. Une petite maison qui peut flotter sur les eaux. 300 coudées sera la longueur de l'arche. De 50 coudées l'arche. Tu feras un arche à toi et tu l'achèveras. Un premier, un second, un troisième étage. Et moi voici que je vais faire venir sur la terre le déluge, les eaux, pour détruire de dessous le ciel toute chair qui a en elle souffle de vie. J'établirai mon alliance avec toi. Alors, vous voyez, première fois où Dieu va établir l'alliance. Parce que l'homme n'a pas compris, même après la faute, qu'il fallait adorer Dieu. Tout a été marqué par le péché. Une adoration qui a suscité en Caïn une terrible jalousie. Donc même les choses très bonnes peuvent être source de terrible jalousie. Une chose la plus élémentaire, adorer Dieu, est source de jalousie. Alors, Dieu... Dieu va établir une nouvelle alliance. Et c'est la première alliance. Je ne vous lis pas tout, c'est pas la peine. On connaît l'histoire du déluge. On connaît comment Dieu sauve du déluge, d'une inondation au nom de toute la terre. Et il construit une maison ambulante. Vous voyez, la sagesse de Dieu a fait un milieu très grand et très beau qui est la première habitation. À cause du péché, l'habitation est très restreinte. Et Dieu a créé quand même un climat. Mais l'homme est retombé dans l'indifférence, dans la violence. C'est la violence qui marque ce second moment d'humanité. Et Dieu sauve toute la famille de Noé. Et toute cette famille implique les animaux. Et donc l'arche représente symboliquement l'Église. Les pères de l'Église ont toujours pris comme ça. C'est le premier symbolisme de l'Église. Il ne faut pas l'oublier. Le premier symbolisme de l'Église qui est fait pour un refuge, un lieu où on pourra aimer Dieu. Alors, une fois que le déluge a tout détruit, le déluge peut se résorber. Et donc, une montée lente de correction par le déluge, par l'eau. Et quand cette correction a atteint son but, tout déroie. Et on doit aller jusqu'au moment où on est possible de quitter, de sortir de l'arche. Alors, il y aurait aussi à regarder comment Noé remarque la possibilité de sortir. Il a envoyé une colombe. La colombe est revenue. Et puis, elle est partie. Définitivement. Là, ça, il y a sûrement là quelque chose de particulier. Voilà. Quand on peut sortir le nez devant cette inondation, ce déluge, à quel moment retrouver l'alliance avec Dieu? Parce que Dieu, il ne va pas de main morte. Hein. Il fait que toute la terre il passe et que Noé seul. Dieu parla à Noé en ces termes. Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils, les femmes de tes fils avec toi. C'est tout à fait particulier, parce qu'il y a un petit reste. Il y a un petit reste très choisi. Toutes les bêtes qui sont avec toi, de toute chair, oiseaux, bestiaux, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, fais-les sortir avec toi. Qu'il pullule sur la terre et qu'il fructifie et se multiplie sur terre. Noé sortit ainsi que ses fils, sa femme, les femmes de ses fils avec lui. Vous voyez l'ordre, la hiérarchie. Noé sortit ainsi que ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils. Ça montre le degré de civilisation, ça. Il n'y a pas encore d'amitié entre l'homme et la femme. Et les fils d'Adam passent avant leur mère. Leur mère et la servante. Noé bâtit un autel à Yahvé. Et prenant de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, il offrit les holocaustes sur l'autel. Yahvé respira le parfum apaisant. Yahvé dit en son cœur, jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme, car ce que forme le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Et jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. C'est la miséricorde du Père qui se précise encore. Vous voyez, la constatation. Car ce que forme le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Ah. La grande raison de la miséricorde, on est dans le péché. Le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Et jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme j'ai vu. Tous les jours que devra, tous les jours que durera la terre, semailles et moissons, froid, dur et chaleur, été et hiver. Mais plus je ne frapperai tous les vivants comme j'ai fait. Tous les jours que durera la terre, semaille et moisson, froid, dur et chaleur, été, hiver, jour et nuit, point de saison. C'est une nouvelle alliance. Et c'est la première fois qu'on dit alliance. Donc, c'est mutuel. L'alliance est mutuelle. Oui. La première conduite de Dieu ne connaissait pas l'alliance après le péché. Il y a simplement une protection sur la personne de Caïn, criminel. Ici, c'est une alliance vis-à-vis de l'humanité qui reprend vie. Autrement, grâce. Alors, on montre Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre, vous serez un objet de crainte et d'effroi pour toutes les bêtes sauvages et pour tous les oiseaux du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer. Vous voyez, la dignité de l'homme apparaît en créant une frayeur. C'est quand même une conséquence du péché qui fait que la supériorité engendre très vite l'orgueil et donc une séparation. Et ce n'était pas dit du tout en raison du premier péché. Autrement dit, la peine, la conséquence du péché s'aggrave, va toujours plus loin. Et l'amour de Dieu va toujours plus loin. Alors, il faut voir, le péché grandit du côté nature et la miséricorde grandit du côté personne. L'alliance, c'est avec les personnes. Et le péché qui a continué d'exister va de fait faire qu'il y a une séparation plus grande entre l'homme et les animaux, et entre les hommes, il y a une difficulté plus grande de s'allier. Tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture, de même que la verdure. Je vous donne tout. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, le sang. Quant à votre sang, j'en demanderai compte à cause de vos âmes. À toute bête, j'en demanderai compte, ainsi qu'à tout homme, de l'âme de son frère. Je demanderai compte de l'âme de l'homme, qui répand le sang de l'homme, par l'homme son sang sera répandu, car à l'image de Dieu, il a fait l'homme. Pour vous, fructifiez et multipliez-vous, pullulez sur la terre et dominez sur elle. Donc, c'est une très belle alliance, l'alliance avec Noé. C'est Dieu qui promet que l'homme doit habiter la terre, elle est pour lui. Il y a de nouveau, mais sous la forme d'une alliance. Donc sous la forme de l'alliance, il va y avoir une justice qui conduira à respecter cette alliance. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, et tout être vivant qui est avec vous pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. Et quand j'assemblerai une nuée au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, je me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et vous. Tout être détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et en le voyant, je me souviendrai de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant de toute chair qui est sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'ai établie. donc de nouveau, nouveau gouvernement divin. Et ce gouvernement divin insiste sur une alliance, donc quelque chose de mutuel, donnant, avec Dieu. Pour que Dieu donne, il faudra donner. La nouvelle tentation, ce sera la tour de Babel. Oui, alors je crois que quand on voit ces diverses alliances, il faut voir les tentations qui ont provoqué les excès. Il faut voir sur quoi porte la chute qui vient détruire cette alliance et la miséricorde de Dieu qui prend une nouvelle forme chaque fois. Et je crois que ça, c'est très important pour nous. Parce que pour montrer que la grâce, chaque fois, prend une forme différente. Elle n'est pas toujours la même. Chassé du paradis terrestre, cependant, Dieu maintient. Noé, il reprend tout. Et puis, la tour de Babel. D'autre façon. Donc, il y a une espèce de diversité d'alliances, et cela, ça nous est donné. Ça nous est donné pour que nous comprenions ce qu'est le mystère de la grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes